Bonjour à tous. Je voudrais répondre brièvement à cet auditeur qui trouve les idées développées dans là-bas caricaturales et qui s'étonne qu'il y ait, selon lui, un reste d'antilibéralisme en France. C'est, explique-t-il, normal, naturel, qu'il y ait une concurrence entre les hommes. C'est vrai que, dès qu'on place la barre un peu haut, les plus grands sautent mieux que les petits, les plus rapides arrivent avant les plus lents, les plus malins se débrouillent mieux que les benêts, les plus méchants triomphent des gentils, les loups mangent les brebis et les lions les gazelles. Mais nous sommes des hommes et pas des bêtes, et depuis des millénaires, nous essayons de lutter contre ce penchant naturel du fort à dominer le faible. On appelle ça de l'humanisme. Nous y sommes quelquefois parvenus avec des soins gratuits aux grands malades, des congés payés à des travailleurs surexploités, l'aide aux handicapés. Il y a bien d'autres qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas la liberté d'apporter grand-chose à l'économie du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un creux, on réclame la liberté de travailler plus pour avoir toujours plus et payer moins d'impôts, ces impôts qui permettent pourtant, s'ils sont bien employés, de rétablir quelques inégalités et de nous permettre de rester un peu humains. Alors que cet auditeur finisse de se désoler pour ce qu'il appelle un reste d'antilibéralisme français et qu'il se félicite avec nous de ce qu'il nous reste d'humanisme. Et bravo à là-bas, si j'y suis, de faire autant de résistance. Robert Dagani, à Marseille.
Christophe et Daniel, bonsoir. Je suis ici à samedi soir, 14 avril, à la cité Yves Farge, dont deux tours vont exploser demain, là, vont être descendues. Et il y avait une petite fête ce soir avec les habitants, parce que j'ai quelques amis avec, grâce notamment aux repères là-bas, si j'y suis. Et puis, je suis avec des gens, là, l'ambiance est très agréable. Avec les gens d'ici, je dirais. Bon, voilà. Et alors, j'ai près de moi Mamadou. Voilà, je voulais... Parce qu'il m'a dit qu'il écoute très souvent là-bas, si j'y suis. Et c'est une famille qui a été parrainée par une très bonne amie à moi et qui a pu être régularisée. Alors, j'ai demandé à Mamadou de dire bonjour. Vas-y.
Alors bonjour, et comme il a si bien dit, nous sommes une famille qui a été régularisée grâce au soutien de vous tous et on est là aujourd'hui pour la fête qui doit avoir lieu. Et c'est un bon soir, voilà.
Voilà, et bien on se sent très très bien, je voulais dire ça aussi, avec ces gens-là, quoi. Voilà. Et bon, et je reparlerai tout ça. C'est assez émouvant, quoi, d'être avec eux. Bon, allez, et il y a Fatoumata, je sais pas, Fatoumata, tu veux dire bonjour? Dis bonjour à Christophe et à Daniel, d'accord?
Bonjour.
Voilà, c'est la petite Fatoumata. Elle est dans les bras de sa marraine. Là. Bon, ben, je vous laisse, et à très bientôt.
Salut. Ton émission, elle était intéressante aujourd'hui sur le retour en arrière des années 80, etc. Moi, je fais partie de la génération anti-Devaquet. Donc, en 86, je suis rentré à la fac, j'avais 20 piges. Donc, direct en grève, j'ai commencé avec ça, avec la grève. Et voilà. Et j'étais un déçu de la gauche institutionnelle. Mais en 88, après 2 ans de violence chiraco-pasqualienne, je suis quand même allé voter Mitterrand au second tour contre Chirac, parce que justement, la mort de Malik Oussekine, la grotte d'Ouvéa, tout ça, enfin bref, m'a déterminé, sinon j'étais prêt à m'abstenir. Mais du coup, je suis quand même allé voter contre Chirac. Et je fais partie des 54%, évidemment, voilà. Et autre chose par rapport au RMI. Moi, j'avais lu un article peu de temps après la création du RMI, une interview de Recard qui disait qu'au départ, le RMI, lui, il l'avait pensé dans le sens où tout être à un moment dans sa vie a peut-être envie de faire autre chose et a le droit de ne rien faire. Donc, il faut un revenu pour ça, pour ne pas avoir à faire quelque chose. Je trouve que ça partait d'un très bon principe. Simplement, après, on l'a obligé à mettre le côté social, etc. Enfin, bref, et de pas trop parler de cette espèce de droit à la paresse, entre guillemets. Enfin, voilà. Finalement, Recard, qui n'était pas un extrémiste, avait quand même des idées assez, sur certains côtés, assez utopistes, entre guillemets aussi. Enfin, voilà, c'était ces précisions-là, et j'ai jamais supporté, j'ai jamais pu saquer Mitterrand, et j'ai quand même mis un bulletin pour lui, et voilà. Bon, salut, c'était Fred d'Hauteville. À bientôt. Ciao.
Salut, si vous voulez pas qu'on vous dise que vous êtes de parti pris à propos de parti pris idéologique à propos des années 80, il faudrait rappeler le contexte de l'époque en ce qui concerne, par exemple, l'Union soviétique. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'alternative à l'économie de marché, au libéralisme, il existait bel et bien. Il était collectiviste, communiste, il était à l'Est, et il nous menaçait du feu nucléaire. Je vous rappelle ce que disait Mitterrand dans ces années-là, à propos des communistes français. Les communistes français ne sont ni à droite ni à gauche, ils sont à l'Est. Et pour une partie d'entre eux, c'était vrai. Il faudrait rappeler ça, le communisme à l'Est ne s'est effondré que dans les années 90, c'est-à-dire une décennie après. Et donc, l'alternative au libéralisme et à l'économie de marché, on l'avait sous les yeux à cette époque-là. Il était dans l'Europe de l'Est, il était en Pologne, qui aujourd'hui fait partie de l'Europe, en Hongrie, en Roumanie. Et on avait sous les yeux les dégâts que ça provoquait. Il n'y avait pas photo à l'époque. Il faudrait rappeler ça. C'est comme pour l'Europe, il y a l'un de vos intervenants qui a l'air de trouver suspect qu'il y ait eu unanimité à l'époque entre la droite et la gauche pour engager la France dans l'Europe, comme si c'était suspect. Il voit cette attitude en fonction de la mauvaise réputation qu'a l'Europe depuis 2005. Depuis le traité constitutionnel, mais bon, ça c'est un anachronisme. À l'époque, l'Europe c'était la paix. La paix et rien d'autre que la paix. Vous vous rappelez la poignée de main, enfin, le main dans la main entre Mitterrand et Kohl, c'était ça l'Europe, c'était pas autre chose. C'était la paix et rien d'autre. Et il y avait absolument unanimité à cette époque-là, je me rappelle très bien, il n'y avait aucun problème pour l'Europe. Et c'était pas suspect. Salut!
Oui, mais pour autant, les altermondialistes d'aujourd'hui sont-ils des nostalgiques de l'Union soviétique des années 80? Ça reste quand même à voir. En tout cas, merci pour cette réflexion sur cette série d'émissions que nous vous proposons actuellement, exceptionnellement dans la base où je suis, ce retour sur les années 80. On continue aujourd'hui avec un anniversaire remarquable qui ne vous a pas échappé, celui de la privatisation de TF1. C'était il y a 20 ans exactement. Et voilà un regard sur cette privatisation que vous propose aujourd'hui la base si j'y suis. Pour notre part, nous sommes ici à Montréal, oui, au Québec, en venant de Boston. Et qu'est-ce qu'on fait à Montréal? Eh bien, on a rencontré Normand Baillargeon. Qui c'est Normand Baillargeon? C'est l'auteur d'un formidable et étonnant traité d'autodéfense intellectuelle, un petit traité d'autodéfense intellectuelle, comment faire pour se défendre contre la désinformation et autres manipulations et autres propagandes qui nous entourent. Et c'est très très passionnant. Ça nous a emmené jusqu'à Québec hier soir, et puis nous sommes revenus cette nuit à Montréal, et ça neigeait très très fort. La route était très très difficile, 10 à 15 centimètres de neige. Oui, il fait quand même assez froid dans ce Montréal où les Montréalais attendaient pourtant le printemps. Il pleut aujourd'hui et nous allons continuer la route vers Toronto. Donc aujourd'hui, joyeux anniversaire TF1. Auparavant, eh ben non, il n'y a pas d'autres messages auparavant. On commence tout de suite.
TF1 est déjà la première chaîne de télévision en France. Avec sa privatisation, le paysage audiovisuel va connaître une véritable révolution.
Pour les promoteurs de la déréglementation des médias dans les années 80, la concurrence, disait-il, devait organiser la diversité et le pluralisme.
Nous serons une chaîne de culture. Et nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque sur de ce point de vue-là.
Quand on est la grande chaîne de télévision qui est la une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Et nous avions le choix entre deux voies, le déclin et le repli sur des structures inadaptées, ou bien la renaissance et la vitalité au profit du génie même de nos créateurs.
Pénétrez dans cet univers musical.
Attention, 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 c'est à vous,
super.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, sans transition, prévention, le gouvernement a lancé une grande campagne de mobilisation contre le cannabis. C'est une bonne chose, mais il y a des drogues plus dures et plus dangereuses, souvenez-vous.
Depuis que Marie vit dans cette maison, elle a vu 2400 fois le journal de Pernod dans le salon. 600 fois combien ça coûte dans la cuisine. 246 fois, il n'y a que la vérité qui compte dans la salle à manger. Et a regardé 45 000 heures de télé-réalité dans la chambre. Au total, Marie a passé 86 765 heures devant TF1.
Guillaume et Vanessa.
Le problème, c'est que Marie a 14 ans.
On paye trop d'impôts et il y a trop d'insécurité dans le pays. Il n'y a que Sarkozy qui peut nous sauver.
Et qu'elle est complètement idiote. Attention, regardez TF1, nuyez aussi à votre entourage.
Du mieux-disant culturel à la part de cerveau disponible, la merveilleuse histoire de TF1 aujourd'hui. TF1 qui célèbre le 20e anniversaire de sa privatisation, ce qui illustre parfaitement notre excursion à travers les années 80. En un quart de siècle, une minorité a imposé ses intérêts économiques au détriment de l'intérêt général, au détriment de millions de femmes, d'hommes et d'enfants, saccagés, humiliés, égarés dans un monde sans suite. Ça s'est fait naturellement grâce à la collaboration des malins qui aujourd'hui occupent les bons trous dans le bon fromage. Pour célébrer cet anniversaire, deux troubles faites, Gilles Balbastre, auteur de Le Journaliste au quotidien, et Pierre Rimbert, auteur de Libération, de Sartre à Rothschild. C'est jusqu'à 16h. Dans là-bas, si j'y suis, Étienne Moujotte, ce sera pour une autre fois.
À TF1, c'est le changement dans la continuité. Hier, la passation de pouvoir entre Hervé Bourges et Francis Bouygues s'est faite avec le sourire. Auparavant, le nouveau PDG avait remis un chèque en béton armé au ministre des Finances, 3 milliards de francs, et la Une avait changé de propriétaire. Cette dernière formalité réglée, Francis Bouygues est venu s'adresser au personnel de TF1. Pas d'inquiétude à avoir, on garde le cap avec la même équipe.
Mes chers amis, il y aura beaucoup de travail à faire dans tous les domaines et à tous les niveaux. TF1 doit rester une chaîne de télévision indépendante au service du plus grand nombre de téléspectateurs. Bien sûr, la rentabilité doit être notre souci. Malgré cet impératif, je tiens à affirmer ce soir que la préoccupation première et de très loin la plus importante est celle de la qualité. Ne vous attendez pas à de profondes modifications pour l'organisation de demain. Il y aura seulement 3 hommes de Bouygues qui viendront aider à la modernisation et à la gestion. J'ai promis et je confirme ce soir qu'il n'y aura pas de licenciement. Mais surtout, je mettrai en place une stratégie qui nous permettra d'engager des jeunes qui apporteront à la chaîne leur dynamisme et leur foi dans l'avenir.
Le 16 avril 1987, il y a 20 ans, on voyait dans la télévision, comme on disait à l'époque, Francis Bouygues lui-même remettre à Édouard Balladur un chèque de 3 milliards de francs, c'est-à-dire 400 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais c'était une somme absolument considérable. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que Francis Bouygues venait d'acquérir TF1. C'était la privatisation de TF1. C'est cette privatisation de TF1 qu'on va évoquer avec Gilles Balbastre, journaliste, et Pierre Rimbert, également journaliste. Mais j'aimerais qu'on essaye de brosser le contexte de l'époque, le contexte dans lequel cette privatisation a eu lieu. Pierre Rimbert ?
Alors, la privatisation de TF1, elle s'effectue un an après l'arrivée de la droite au pouvoir, qui gagne les législatives en mars 86, et on a un Premier ministre qui est bien connu, qui est Jacques Chirac déjà, Jacques Chirac dans sa phase la plus libérale. La télévision, à l'époque, bah, c'est Christine O'Crène qui présente le journal de télé de 20h, c'est Patrick Sébastien, qui est encore là aujourd'hui, c'est Stéphane Collaro, avec le bébé de show, avec les marionnettes qui font leur apparition, lui n'est plus là, et puis c'est la constitution des groupes de communication qui règne encore aujourd'hui à la radio, comme Énergie, et des gens comme Jacques Séguéla, Serge Julie, Bernard Tapie, les vidéoclips, et puis TF1, à ce moment-là, est dirigé par Hervé Bourges.
La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'État de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel.
Alors voilà, François Léotard à l'Assemblée nationale, le 14 mai 1986, c'est très précis, il s'agit d'éloigner l'État de l'information et puis aussi d'ouvrir un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. 20 ans plus tard, on se demande, l'un et l'autre, Gilles Balbastre qui est un journaliste de télévision et Pierre Rimbert qui est un observateur avisé, est-ce que cette qualité a été au rendez-vous ?
Ça prête quand même à sourire et c'est toujours agréable de retrouver des archives et de repointer ce que des hommes politiques ont pu dire pour tenter de faire avaler aux gens la privatisation de TF1. Et c'est vrai que le gouvernement, l'État contrôlait énormément les informations, hein, que ça soit sur les chaînes de services publics, TF1 et France 2, avant 81. C'est un fait, le pouvoir gaulliste et giscardien contrôlait l'information aussi bien sur France Inter, là où on est, que...
Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui.
Alors voilà, ça sera...
Aujourd'hui, alors là...
Là, on va... On pourra en parler un peu plus tard.
Ça fait rire aujourd'hui. On sait bien qu'il n'y a aucun lien entre le monde politique et
non, les surtout par exemple entre les PDG de Radio France qui n'ont aucune affinité politique ou amicale. C'est vrai que ça a énormément changé à ce niveau-là. Enfin, bref, à cette époque en tout cas.
Mais alors à l'époque, ils sont tous dans le même plumard.
Ils sont, voilà. Ça, c'était un fait. C'est un fait. C'est indéniable. Par contre, ce qui est un fait aussi, c'est que la télévision, en tout cas, la production à la télévision, était en partie de qualité. Je ne dis pas qu'elle était totalement de qualité, mais elle était en partie de qualité.
Pierre ? Alors, bon, Léotard dit on veut éloigner l'État de l'information. Et il me semble que sa grande réussite, surtout, ça aurait été de rapprocher l'information de l'argent. Parce que ça, c'est la dimension qui est sous-jacente aux propos de Léotard. Alors, effectivement, le monopole public de l'audiovisuel a volé en éclats. Bouygues, Vivendi, Bertelsmann, Lagardère, aujourd'hui, quadrillent le capital des chaînes des télévisions privées. TF1, qui est la plus puissante chaîne de télévision européenne en termes de part d'audience, n'est plus publique, c'est un fait. Mais ses liens avec l'État, l'État dont Léotard voulait éloigner la présence de l'information, ces liens-là n'ont jamais été aussi étroits. D'abord parce que Bouygues doit une partie de son chiffre d'affaires aux commandes publiques, soit à travers son activité de bâtiments et travaux publics, soit à travers son activité de traitement des eaux. Ensuite, parce que les liens entre le patronat de la presse et les politiques sont eux aussi très très étroits, très forts. Vous savez que Martin Bouygues, donc le fils de Francis qui a signé ce gros chèque à Balladur en 86, Martin Bouygues est à la fois le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, il est le parrain de l'un des fils du ministre de la police, de l'ex-ministre de la police. Et d'ailleurs, Nicolas a confié... Martin, c'est pour moi la définition de l'amitié, de la droiture, de la fidélité. Depuis 25 ans, bientôt, nous nous parlons tous les jours. Et effectivement, tous les jours ou presque, TF1, en retour, parle de Sarkozy. Le syndicat national des journalistes, le CGT, a noté qu'au cours des 264 premiers jours de l'année 2006, Nicolas Sarkozy est apparu 266 fois à la télévision. Alors l'ORTF, on avait les protestataires de 68 avaient coutume de dire « la police vous parle à 20h », eh bien, en 2007, c'est l'ex-ministre de la police vous parle à chaque instant à la télévision.
Ah, nous vous attendions, monsieur Sarkozy.
TF1, ça fait quand même du bien de savoir qu'on a une maison, n'est-ce pas, monsieur Sarkozy ?
Je crois que cette décision est une triste décision. Les Français sont extrêmement attachés, vous savez, à leur télévision. Ils aiment leur télévision. Et en particulier, TF1, c'est la première chaîne qui a marqué l'aventure de la télévision. TF1 a été, est toujours, la grande chaîne nationale populaire de qualité. C'est le bien commun des Français. TF1 appartient non pas au gouvernement, non pas à un parti, non pas à un groupe privé, mais aux Français eux-mêmes. Et vous savez, je crois que beaucoup de gens en France n'accepteront pas que leur bien commun, leur patrimoine commun, qui est en même temps celui des artistes, des créateurs, des techniciens, des journalistes qui pendant 40 ans ont fabriqué une bonne télévision, peu de personnes accepteront ce bradage à un intérêt privé.
Bradage à un intérêt privé, Jack Lang, le 16 mai 1986, on voit quand même qu'il y a une opposition à cette privatisation. Gilles Balbas.
Oui, une opposition de circonstances. Parce que, encore une fois, on a quand même évoqué la préparation d'un bouleversement de l'audiovisuel depuis 1982 par les socialistes. C'est sûr qu'ils vont pas privatiser une chaîne publique, mais ils vont quand même mettre en place deux chaînes privées, la 5 et TV6, qui facilitent le travail à la droite, qui donne à la possibilité à la droite de privatiser TF1. Une fois que vous avez dérégulé comme ça un secteur, que vous mettez en place de la concurrence, qu'est-ce que vous voulez que fassent les services publics, si ce n'est réagir comme ses concurrents, utiliser les recettes de ses concurrents, se comporter comme ses concurrents, et donc aller de plus en plus vers ses concurrents. Et on aura l'occasion de s'apercevoir que les autres chaînes de services publics vont peu à peu aller vers ce que TF1 a imposé, mais c'est que la 5 et TV6 avaient commencé à imposer dans ce paysage audiovisuel.
This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is the sound of sea. This is the sound of sea. This is the sound of sea. This is the sound of sea.
Le gouvernement a ainsi décidé de proposer au Parlement de privatiser TF1. Ceci dans le cadre d'une loi beaucoup plus vaste qui organisera la liberté de communiquer dans une perspective moderne, mais concurrentielle et européenne. Pourquoi ? La création audiovisuelle, chacun le voit aujourd'hui, stagne dramatiquement dans notre pays. L'argent de la redevance est très mal employé. Et nous avions le choix entre deux voies, le déclin et le repli sur des structures inadaptées aux tactiques modernes de communication, ou bien la renaissance et la vitalité au profit du génie même de nos créateurs.
Voilà, le génie même de nos créateurs, eh bien, ce sera le génie même de Francis Bouygues, qui, je le rappelle, le 16 avril 1987, symboliquement, se rend propriétaire de TF1. Une réaction sur ce discours de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale, le 15 mai 86, l'un ou l'autre, Pierre,
Humbert, ben, c'est le grand mot, la création, les créateurs, hein. Il faut être créatif, hein. On devient des individus créatifs, et Chirac, à ce niveau-là, embraye ce qu'a dit Jacques Lang depuis 81, 82, en faisant ces grandes fêtes de la création. On est dans cette époque-là.
J'ajoute que c'est aussi la naissance d'un discours qu'on ne remarque presque plus tant il est omniprésent, mais c'est l'association permanente des mots déclin et repli à la notion de service public, et simultanément, symétriquement, l'association de renaissance et de vitalité,
modernité,
qui sont associées au privé. Et bon, organiser la liberté de communiquer dans une perspective moderne, concurrentielle et européenne, on a vraiment l'impression de trouver là les trois piliers de notre système médiatique actuel. Il faut voir que pour les promoteurs de la déréglementation des médias dans les années 80, la concurrence, disait-il, devait organiser la diversité et le pluralisme. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on s'aperçoit que ça n'a abouti qu'à l'uniformisation de l'information et à la concentration capitalistique des grands médias.
Alors, toujours réaction à cette privatisation, le 7 juin 1986, place de la République à Paris.
Le public nombreux était au rendez-vous lancé par le petit écran. Un seul mot d'ordre pour tous à ce rassemblement, la télé est à nous. De nombreuses vedettes du petit et du grand écran sont venues dire leur soutien. Les témoignages se succèdent sur le podium. De nombreux chanteurs et groupes musicaux se produiront ainsi jusqu'à minuit. Bizarrement, à part Michel Cardoz, pas de vedette de TF1. Les hommes politiques aussi sont présents. Michel Rocard, Jack Lang, Lionel Jospin, Dumont Badgé, des représentants communistes. L'enjeu de ce soir est important, mais il faudra attendre pour savoir si ceux qui sont venus soutenir le service public seront entendus.
Si cette manifestation obtient un écho auprès du grand public, vous pourrez peut-être voir fleurir dans les jours qui viennent des badges pour La télé est à nous, qui auraient pu s'appeler aussi, pourquoi pas, Touche pas à mon poste.
Alors, Touche pas à mon poste, cette manifestation de juin 1986, et ben, je dois vous dire que j'y étais. J'ai même animé une partie de la soirée sur le podium, et il faut bien dire que ça ressemblait à un baroud d'honneur. Et ceux que vous avez entendus auparavant, Jack Lang, etc., se tenaient prudemment à l'arrière du podium, mais en aucun cas, ils ne sont avancés devant le public. Et cette journaliste a bien raison de dire que la plupart des vedettes du music hall n'avait pas pris le risque de participer à cette fête parce qu'ils avaient compris que c'était foutu et personne ne veut jamais compromettre sa carrière.
Oui, que c'était foutu et surtout que ces vedettes du show business ont excessivement gagné avec cette dérégulation. La prolifération des radios commerciales, des chaînes de télévision a amplifié leur rémunération. Ces vedettes ont profité, c'est bien peut-être ces rares éléments, ces rares catégories sociales qui ont profité de cette dérégulation, c'est gagner de plus en plus d'argent, comme les sportifs du reste, grâce à ce contexte de dérégulation.
Comment va le monde, monsieur ? Il tourne, monsieur. La privatisation de TF1, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je m'en fous. Bien sûr, les berlusconards et les berlusconasses ne m'ont pas convaincu. Bien sûr, je n'attends rien de bon des ogres friqués, ni des vautours phagocytaires qui claquent leur bec crochu au crépuscule des lucarnes à vendre. Mais je n'irai pas pour autant m'intégrer au cortège des cuistres qui versent des larmes de sang et poussent des brames effrayants à l'idée qu'on va dénationaliser Jean-Claude Bourret. Dans les milieux artistico-intellectuels, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on se heurte à ces piliers vermoulus de la culture en pot, qui, hier encore, eussent préféré crever plutôt que de regarder Guy Lux, et qui, désormais, se tiennent prêts à prendre les armes pour que survive la médiocrité. Arrêtez vos jérémiades, consternants faux culs qui ne vibraient qu'à Godard et n'exultaient qu'à Lacan. Vous le savez mieux que moi, camarades itronophobes, que la télévision, d'état ou pas, c'est déjà, et ce fut toujours, la victoire de la merde sur la beauté des choses. La télévision, d'état ou pas, c'est déjà, ce fut toujours, pour ceux qui n'aiment pas ça, l'obligation de subir à longueur d'antenne les embrassades poilues des cromagnons footballistiques qu'on vit naguère s'éclater de rire certains soirs de Bruxelles sur le charnier de leurs supporters éventrés. La télé, d'état ou pas, c'est la loi scélérate des hit-parades et des top 50, c'est-à-dire la loi des requins froids et des débiles anglomaniaques et fossoyeurs de la chanson qui pense. C'est le droit à l'apothéose pour les ricacazarailles en perlousée gloussante, reconvertie en dondon paramédical et trempeuse de cul dans des bidets de verveine. La télévision, d'état ou pas, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char ou Reiser ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner d'intelligence sont programmés à la minuit, pour que la majorité béate des assujettis sociaux puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un hébété trentenaire figé dans un sourire définitif de hernie ventrale et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. D'état ou pas, la télé, c'est comme la démocratie. C'est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Dommage qu'on n'ait jamais rien trouvé de mieux que les drapeaux rouges ou les chemises noires pour en venir à bout.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
On ne peut pas parler des années 80 sans parler de Bernard Tapie. TF1, 4 mai 1996.
Fin mars, à quelques jours des auditions publiques devant la CNCL, Hachette reste favori et mise sur les professionnels qui sont à ses côtés. Tandis que l'équipe Bouygues, elle, s'entraîne chaque jour avec Bernard Tapie et répète méthodiquement devant des caméras sa future prestation.
Ah oui, on fait un vrai training. Alors je vous ai dit pas qu'au début, on était épouvantablement mauvais. Et finalement, on s'aperçoit que, avec un peu de temps, en 3-4 jours, on se perfectionne à la télévision.
Patrick Lelay, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet, va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les Français pour les convaincre.
Alors évidemment, le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui, il veut tout faire.
Voilà, je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on les pousse complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires.
Tout d'abord, premier,
Robert Maxwell. Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand
tu. Je lui dis pas merci.
Non, rien. Quand il te regarde, tu sens qu'il a compris. Mais... Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau.
Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau.
Là, tu dis, monsieur Clermont-Tonnerre.
Antoine de Clermont-Tonnerre. Voilà. On peut le montrer de la main.
Oui.
Jacques Duquesne.
Et l'Oiseau.
Et Bernard Tapie.
Voilà, là. Bon, et puis là-dessus, moi, je vous dis, je suis content, en tout cas, etc. Et Patrick Lelay.
C'est toi qui raccroches.
Voilà, je raccroche sur Patrick Lelay. Et on n'oublie jamais, cheese le sourire.
Le souhait. Fusion commun, une petite erreur l'un ou l'autre.
On continue.
Pour faire
un sourire. Excusez-moi.
Donc, vous faites des sourires.
Oui, je souhaiterais poser une question à M. Bouygues concernant la politique sociale. Comment vous envisagez maintenir les conventions collectives ?
On n'est pas d'accord avec moi.
Bravo, Madame Pascal.
On n'a rien laissé au hasard. C'est une vraie opération militaire. Oui, bah, comme quand il y a une opération militaire, il faut que l'intendance suive. Bah, tout est super organisé. Il n'y a pas eu quelque chose, un détail laissé au hasard.
On est à la veille d'être propriétaire. On le savait, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour. On nous remet la coupe ce soir.
Tu garantis ?
Oui. Alors, vous vous rendez compte ? On nous remet la coupe dans quelques instants. On est heureux d'être là, c'est fabuleux. Quoi. Hein ? Et voilà comment on va le faire.
Voilà un document formidable où Bernard Tapie entraîne Francis Bouygues et Patrice Lelay la présentation, à leur présentation pour obtenir cette fameuse privatisation. Et on voit le silence de Bouygues quand une journaliste très complaisante lui demande ce qu'il fera en matière de convention collective. Et on voit que Bernard Tapie est quand même l'homme de ces années 80.
Il sera aussi ministre de la Ville quelques années plus tard sous un gouvernement de gauche, sous le gouvernement, je crois, de Michel Rocard. Là encore, on voit le mélange des genres. Comme on a vu Berlusconi s'emparer de la 5 en 85, et on sait qui est Berlusconi maintenant, et qui était réputé homme de gauche, projet socialiste. Bernard Tapie, qui se mélange avec Bouygues et Lelay, qui les coach, devient ministre quelques années plus tard sous le gouvernement socialiste. Le mélange des genres est total. Encore une fois, ce terrain a été préparé par une déliquescence de la manière de gouverner du Parti Socialiste.
Pierre Imbert.
Oui, alors là, on vient d'entendre la préparation de l'audition. Mais alors, l'audition elle-même va être encore plus savoureuse. Elle se passe le 3 avril 87. Elle est retransmise en direct sur TF1. Et Bouygues, Francis, déclare « Notre grand projet repose sur des idées simples ».
Notre grand projet repose sur des idées simples.
Informer, divertir, cultiver.
Informer, divertir, cultiver.
En bref,
servir le téléspectateur.
Alors, Patrick Lelay prend la parole, il exprime ses priorités. Tout d'abord, respecter le téléspectateur.
Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur.
Puis il célèbre la culture, plaisir de vivre ensemble.
La culture française doit résister, parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble,
parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projet.
Et il parle aussi, évidemment, de l'importance de sauvegarder la qualité des programmes. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant cette audition, Catherine Tasca interroge l'équipe de TF1 sur l'existence d'émissions culturelles ambitieuses de haut niveau et donc, pour un temps encore, de faible audience, pas seulement à titre exceptionnel. Ça, c'est l'exigence de la commission. Réponse de l'un des membres de TF1.
Nous serons une chaîne de culture. Nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque sur de ce point de vue-là.
Une chaîne de culture. Et puis Bernard Tapie enfonce le clou. Francis Bouygues a une vertu devenue rare.
Il a une vertu devenue rare. Il dit ce qu'il fait et il fait tout ce qu'il dit.
Quand on est une grande chaîne de télévision comme la Une...
Quand on est la grande chaîne de télévision qui est la Une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Oublier l'audimat. Alors on a entendu la préparation de l'audition, des propos tenus à l'audition, et là, changement de ton, parce que un mois après, Bouygues a remporté la Une, et les promesses de Bouygues, de Lelay, de Tapie, n'engagent, un peu comme celles de Pasqua, que ceux qui y croient. Une fois qu'il a remporté la mise, Bouygues explique sur Europe 1, et là, vous allez voir, le ton a un peu changé, « Nous sommes privés, nous sommes évidemment une chaîne commerciale, il y a des choses que nous ne souhaitons pas faire, par exemple, du culturel, du politique, des émissions éducatives. » Et de son côté, Lelay a tout à fait perdu son goût pour la culture. Dans les colonnes de Libération, lui écrit « On ne vit plus qu'avec les chiffres de l'audimat. Il faut avoir le respect du goût du téléspectateur, ne pas le forcer à regarder ce qu'il n'a pas envie de voir. Passer une émission culturelle sur une chaîne commerciale à 20h30, c'est un crime économique. »
Alors, Pierre Humbert, quel était l'intérêt de Bouygues là-dedans? Parce que, bon, c'est Francis Bouygues ne manque pas de travail, il est à la tête d'une entreprise considérable, qui a des marchés partout dans le monde. Quel était l'intérêt du groupe Bouygues d'acquérir TF1?
Mais d'abord, TF1, c'était, comme l'ont expliqué Pierre Péan et Christophe Nix dans leur enquête sur TF1, un pouvoir. TF1, ça n'est pas seulement une chaîne, c'est un pouvoir politique, c'est un pouvoir d'influence économique. Et un pouvoir politique, pour une raison très simple, c'est que lorsque on transforme la liberté de la presse audiovisuelle en une propriété privée, on s'achète du même coup le pouvoir d'influencer les politiques. Et dans leur bouquin, justement, TF1, un pouvoir, Péan et Nick citent un proche de Bouygues, un de ses collaborateurs qui a préféré garder l'anonymat, et on va voir pourquoi. Ce collaborateur explique à propos de Francis Bouygues. Francis avait le plus grand mépris pour les politiques qu'il savait pouvoir acheter. Avec une chaîne de télévision, il comprend qu'il n'aura plus à les solliciter, mais que ce sont eux qui viendront manger dans sa main. Dès cette époque, il avait imaginé comment quelques minutes accordées au JT de 20h à des leaders du tiers-monde aideraient son groupe à obtenir des marchés. En rentrant du festival de Cannes en 87, peu après qu'il eut gagné, Francis m'a confié « Je me rends compte que TF1 c'est fantastique. Ce n'est pas moi qui suis demandeur, c'est eux qui le deviennent. » Il venait de constater l'inversion du rapport de force. Fin de citation. Et c'est un moment décisif, la victoire de Bouygues dans l'attribution de TF1. Et à vrai dire, plus que la victoire de Bouygues, la privatisation de TF1. Ça entérine un basculement du rapport de force entre les politiques et les médias. Auparavant, les politiques dominaient l'univers des médias. Ils pouvaient légiférer dessus, ils pouvaient au moins tenter de réguler cet univers. Après la privatisation de TF1, ou plutôt après les années 80, c'est les médias qui peuvent mettre en scène, qui conquièrent le monopole de la mise en scène de la vie politique. Et peu à peu, les politiques ont pris peur du pouvoir qu'ils ont octroyé aux médias, au point de ne plus oser essayer de le contrôler. J'ajoute une chose, c'est que Bouygues a tellement bien compris ce système des intérêts secondaires qu'en 1994, il crée LCI. Alors c'est 8 ans après la privatisation, 7 ans, et Bouygues dit « Cette chaîne sera un instrument de pouvoir. Pourquoi » Pourquoi? Eh bien parce que sur LCI, il va faire défiler tous les gens qui se pensent importants mais qui n'ont pas l'occasion de passer sur TF1. Parce
que oui, bien sûr.
Sur TF1, on peut pas faire passer tout le monde. Et Bouygues avait tout à fait compris ça. Tous les seconds couteaux de la politique, du journalisme, de l'économie vont défiler sur LCI. Et Bouygues, d'ailleurs, qui était malin comme un singe, avait veillé à confier des émissions à tous les éditorialistes les plus infatués de la scène parisienne. Luc Ferry, Jacques Julliard, Claude Imbert, Edoui Plenel ont tous hérité d'une émission de télé sur Bouygues, et du coup, ont cessé, tant bien qu'ils voulaient le faire, de critiquer TF1 et LCI. Et le directeur d'antenne de LCI, qui s'appelait Dutoit, nous avait dit 20 à 25 000 Français se considèrent comme des acteurs de premier plan de la vie politique, économique, religieuse, intellectuelle, scientifique. Si nous ouvrons une chaîne d'information, on se fera 25 000 copains. Et ça n'a pas manqué, ça a été 25 000 obligés sur lesquels Bouygues savait pouvoir compter pour ne pas desservir ses intérêts.
On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause toute courte, le temps que vous téléphoniez, pourquoi pas, pour vous inscrire. Et nous revenons après celle-ci.
Oui, ce que dit Gilles Balbastre, qui est un professionnel de la profession quand même, qui a longtemps bossé pour la télé, c'est que cette ligne idéologique, c'en est une, parce que c'en est une, de Lelay, ce dogme de Lelay va influencer le service public tout entier, et pas seulement de la télé d'ailleurs, aussi de la radio. C'est ça qui est important, parce que on nous fera croire que bon, il y aura d'un côté un secteur privé, et bien très bien, et puis de l'autre côté un secteur public fort. Et nous on avait à l'époque un slogan qui était écoutez la différence, il y aurait une différence. Or, force est de constater que ça n'a pas été le cas dans la mesure où le service public, le secteur public, s'est mis à la remorque, s'est trouvé fort contraint d'être à la remorque de cette locomotive qu'est depuis TF1.
Oui, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler, de commencer ma carrière comme journaliste à France 2, donc dans les années 90, au début des années 90, donc quelques années après cette privatisation. Une des phrases remarquables du président de France Télévisions de 1993 à 1996, Jean-Pierre Elkabbach, était « Il faut niquer la une ». Donc vous voyez déjà l'ambiance, c'était très sympathique, et on en était là. Je me rappelle que quand on arrivait sur le terrain, une des principales phrases que je prononçais, c'était soit chouette, on a baisé la gueule à TF1, excusez-moi quand même ce vocabulaire, soit merde, on s'est fait baiser la gueule par TF1.
Et nos chefs, excusez-nous de ce vocabulaire.
Et nos chefs à Paris nous téléphonaient en disant, est-ce que vous avez baisé la gueule à TF1? Alors je vous dis pas que c'était uniquement les seules paroles qu'on prononçait, parce que à ce niveau-là, ça aurait été quand même assez grave, mais c'est quelque chose qui revenait constamment. Et cette concurrence a amené une transformation de l'information. Alors, ce qu'il faut aussi un peu relativiser, c'est que c'est pas uniquement la privatisation de TF1 qui a fait ça. On vous a expliqué que depuis le début des années 81... Et surtout après le tournant de 82 et de 83, il y a quelque chose qui se passe au niveau idéologique en France, hein. Et que des gens comme Hervé Bourges, qui a été le président de TF1, soi-disant là que la droite voulait se faire parce que c'était
de gauche,
membre de gauche, et Hervé Bourges est passé à France 2 en 90 et 92. On a vu arriver comme ça des gens de TF1, hein, qui étaient soit partis parce qu'il y avait la privatisation. On a eu par exemple sur France 2 Alain d'Anvers, hein, directeur de l'info en 1991, qui a par exemple lui fait recruter un certain nombre de ce qu'on a appelé nous à l'époque les cow-boys de la 5, qui adoraient le fait divers. La 5 était les spécialistes, hein, c'était avec Jean-Claude Bourret, hein, le fameux Jean-Claude Bourret, le présentateur, qui était d'une finesse extrême. Pernaud de TF1 à côté fait penser à Jean-Paul Sartre. Donc juste pour terminer, le rédacteur en chef du 20h de France 2 à l'époque, pour montrer comment où on en était arrivé, disait une interview dans un reportage ne doit pas faire plus de 10 secondes. Quand il y a deux phrases dans une interview, la deuxième phrase tue la première phrase.
Le 15 avril, Ils seront 7000 invités à Port-Marly, chez Francis Bouygues, dans une fête absolument formidable, d'un enthousiasme formidable, comme dit, qui l'on sait. Et ben, tout se passe bien, on est content. Le numéro 1 mondial du béton a acquis cette télévision publique. Tout le monde est content. Il y aura quand même là aussi des petits bémols dans l'émission de Michel Polak et Droit de réponse à l'époque. Un certain Viaz, un dessinateur qui s'appelle Viaz. Il y avait des dessinateurs qui participaient à cette émission et Viaz travaille toujours. Et c'était le moment du pont de l'île de Ré. Hein, et c'était évidemment Bouygues qui construisait ce pont sur l'île de Ré. Et le dessin de Viaz était accompagné de la légende suivante. Une maison de maçon. Une maison de maçon, c'était le slogan des maisons Bouygues. Hein. Une maison de maçon, un pont de maçon, une télévision de merde. Et Polak a refusé de revenir sur ce dessin et sur cette légende, et Polak a été viré.
Rira bien qui rira, le dernier dit le proverbe. Ce pouvait être la devise de tous les exclus du petit écran qui se sont vus récompensés hier soir lors de la nuit des 7 d'or. Patrice Drevet récompensé dans la catégorie pour la jeunesse avec son mini-mag supprimé sur TF1. Et puis Michel Polak était bien sûr présent. Il n'a pas manqué d'exercer son humour sur son ancien patron Francis Bouygues au micro de Daniel Messager.
Je trouve cette soirée absolument extraordinaire parce que, à mon avis, c'est le dernier 7 d'or qui est en organisé, parce que comme l'année prochaine ça risque d'être TF1, je ne vois pas Monsieur Bouygues recevoir sur sa chaîne cette avalanche de tuiles. C'est pas possible, de toute façon il n'y aura que des fantômes l'année prochaine. Ils vont tous être virés les uns après les autres et il ne restera plus que les feuilletons américains et japonais.
Vous le voyez en quoi le 7 d'or l'année prochaine, s'il y en a encore un?
Ah non, non, mais ça, alors vraiment en béton et en béton armé, comme m'a dit un machinot, parce que, non, d'abord il veut faire des économies, Monsieur Bouygues, sur le personnel, alors le bronze c'est déjà trop cher. Il trouvera sûrement un maçon chez lui pour lui faire ça.
Oui. Ben, il me semble que le son qu'on vient d'entendre montre à quel point le pouvoir du propriétaire est quelque chose qui existe et qui est un vecteur de censure. Presque parfait. Un média qui est possédé par un propriétaire, qu'il soit privé ou public, ne dessert jamais les intérêts de ce propriétaire. Ça, c'est un pouvoir qu'a le propriétaire. Ben, il s'est acheté ce journal, cette chaîne de télévision, donc il en fait en quelque sorte ce qu'il veut, en théorie, sous réserve du respect du cahier des charges qui lui a été imposé. Mais en théorie seulement. Mais la censure qu'évoque Jean-François Kahn, donc qui est la censure directe du propriétaire, elle porte essentiellement sur les intérêts directs du propriétaire. En revanche, le propriétaire ne va pas dicter le contenu de la chaîne TF1. Et là, c'est peut-être une autre censure, un autre type de censure qui prend le relais. C'est la censure par l'audience, par l'audimat, par un autre moyen qui est celui de la concurrence des chaînes entre elles. Et un personnage qui s'appelle Carlo Freccero, qui était l'ancien directeur des programmes de La 5, la chaîne donc confiée à Berlusconi, l'avait lui-même reconnu dans les années 80. Il disait: il y a une censure terrible dans les télécommerciales qui interdit toute création dissonante avec la philosophie des grilles des programmes. La télécommerciale devient un spectacle mis en scène pour promouvoir l'écoute du spot publicitaire qui doit être très convaincant pour obliger le spectateur à acheter les marchandises réelles. Le spot a acquis une telle place dans la télécommerciale qu'il a donné naissance à une façon de produire. Pour captiver le plus grand nombre possible de spectateurs pendant le plus longtemps possible, la télé doit demander un effort mental minimum. Et là, oui, il dit ça au début des années 80, c'est du le-lait sur oui, le temps ça. De cerveau disponible avant l'heure. 20 ans ou 18 ans avant le-lait, on avait déjà ce genre de propos de la part de directeurs de programmation.
Le poids moyen d'une belette, le petit carnivore, est de 70 grammes ou 140 grammes, la belette. Vous prenez votre temps, bien sûr, et nous nous retournons vers nos téléspectateurs qui veulent jouer avec nous. Tous les gens qui ont gagné 500 euros ou 1000 euros, de toute manière, se sont inscrits, d'accord? On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause, toute courte, le temps que vous téléphoniez, pourquoi pas, pour vous inscrire. Et nous revenons après celle-ci.
Le projet du gouvernement de l'époque de 1986-87, à travers la, les propos de François Léotard, c'était d'éloigner l'État de l'information. Effectivement, encore qu'on puisse être un peu sceptique là-dessus, l'État a été éloigné de l'information, ou du moins le poids de l'État sur l'information, du gouvernement sur l'information, se fait de façon différente. Hein, ça avait au moins le mérite d'être clair à l'époque de l'ORTF. Mais l'information s'éloignant de l'État, c'est évidemment rapprocher les puissances d'argent. C'est ce qu'on peut.
Il y a de Borès dans le service public, quand même. Sur France Inter, sur Radio France, sur France 2. On ne peut pas dire que des gens comme Arlette Chabot sont très très éloignés de Nicolas Sarkozy.
Okay. Pierre Imbert.
Je pense que la privatisation de TF1, au fond, ça n'a fait qu'entériner une dérive commerciale que la télévision publique avait engagée depuis quelques années. Hein, rappelons-nous, les émissions Vive la crise, c'est sur France 2, c'est pas sur TF1 privatisé, c'est sur France 2 public. L'émission Ambition de Bernard Tapie, c'est sur TF1 public. Donc il y avait déjà eu un mouvement de spectacularisation de la télévision publique que cette privatisation n'a fait que entériner. En ce sens, c'est un aboutissement, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi un point de départ. Car une fois TF1 privatisé, ce qui était jusqu'alors juste une dérive va devenir la norme. Hein, la norme de l'audimat qui va assigner pour seul rôle à la télévision de canaliser des spectateurs vers des spots publicitaires. Et c'est la fameuse phrase de Lelay, hein, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Et ce qui est intéressant dans la privatisation de TF1, c'est qu'elle va en quelque sorte interdire tout retour en arrière. La chaîne privée, elle impose aux autres chaînes de se battre sur son terrain. Parce que TF1, c'est 33% de part d'audience, mais c'est près de 55% du marché publicitaire de toute la télé. Toutes les sommes qui sont investies en publicité à la télé, eh bien une majorité de ces sommes revient à TF1. En 2005, TF1 a diffusé 814 heures de publicité. Si vous les mettez bout à bout, ça fait 34 jours de publicité diffusée en continu. Et c'est pour ça que TF1 a la capacité de fixer le marché de la publicité à la télé, de fixer la norme de la production télévisée. Et c'est la locomotive, France 2, France 3, et même une chaîne comme la 5e, etc., sont les wagons. Elle est devant. Elle impose la manière de faire de la télévision. Et pour changer la télévision, eh bien, il paraît évident qu'il faut commencer par arrêter cette locomotive. S'il existait une volonté politique de changer les choses pourraient être changées. Mais bon, pour le moment, la volonté politique, c'est plutôt de les conserver en l'état. Au début de l'année 2007, le gouvernement a offert un petit cadeau d'adieu aux chaînes privées TF1, M6 et Canal+, puisqu'elle a adopté le principe d'une reconduction simplifiée de l'autorisation d'émettre de TF1 jusqu'en 2022.
C'était les années 80, retour en arrière, une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à François Cusset, Serge Halimi, Frédéric Lordon, Gilles Balbastre, Pierre Rimbert, ainsi qu'à Jennifer Guillot et à Florence D'Artois de Lina. À voir ce soir sur TF1 à 20h50, Hubert et le chien avec Christophe de Chavannes et Rosie Vart. Toutes les informations concernant les repères des amis des Là-bas, si j'y suis, sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Quincey et Julien Dumont, réalisation Yann Chouquet et Corinne Guyenne, assistante Charlotte Perry. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Il attend vos messages au 01 56 40 37 37. Il y a aussi un mail daniel.mermet@radiofrance.com.